Bonjour. Lourmarin, Gordes, Bonnieux, Cucuron, Lacoste, Saint-Saturnin-les-Aptes, Ménerbe, Seignan, Sceaux, ces noms de villages vous disent sûrement quelque chose si vous avez eu la chance de parcourir les routes du Luberon, de sentir par la fenêtre les effluves de lavande, sur le plateau de Sceaux, de flâner dans les ruelles Sceaux chic de Lourmarin. Dans La gloire de mon père, il y a cette scène où le jeune Marcel et petit Paul se disputent le droit d'ouvrir les volets le matin pour découvrir le panorama sublime que leur offre la Provence, son soleil éclatant et le concert des cigales. J'ai pensé à cette scène ce matin en ouvrant les volets de ma chambre au château La Sable où nous avons séjourné à Cucuron. Des arbres centenaires, des oiseaux innombrables dont on joue à tenter de les reconnaître par leur chant, une terrasse majestueuse qui pour le coup ferait plutôt penser au château de ma mère, Pagnol encore. Convoquer Pagnol quand on est en Provence est un peu cliché, j'en conviens, mais on ne commande pas ses souvenirs et les sensations qu'elle procure. Le vin est fait aussi de cela, de ces madeleines de Proust qui se révèlent à la dégustation de telle ou telle cuvée, qui vous rappelle un autre vin, un autre moment, d'autres sensations proches ou lointaines, et votre armoire à souvenirs continue de se remplir. La beauté sublime de ces villages accrochés aux flancs de collines, la sérénité des paysages que l'on traverse ici, la diversité des essences et des parfums, le Luberon met tous vos sens en éveil et les vins qui naissent ici sont porteurs de ce bagage sensoriel unique. Ce 94e épisode s'intitule « Le Luberon au rythme des couleurs ». Bienvenue dans la Terre à boire.
Alors juste, hein, mais Sceaux, ça ne fait pas partie du Luberon.
Ouais.
C'est juste, okay. C'est Ventoux en fait.
Pardon pour l'allusion à Sceaux. Pour moi, c'est un ensemble.
Oui, mais... non, mais c'est sûr. Mais c'est d'un point de vue d'appellation.
Merci pour la précision. Tu as raison. La voix qu'on entendait, c'est celle de Valentine Tardieu-Vitali, qu'on n'a pas encore présentée, mais qui est une de nos deux invitées en Luberon. Une nouvelle fois, on est en extérieur, sur la grande terrasse du château La Sable, je le disais, à Cucuron. C'est l'ami Morgane du studio Module qu'on a emmené avec nous dans nos bagages et qui a installé ici un studio assez unique et exceptionnel. Il a fallu jouer avec les arbres pour tenter de rester à l'ombre le temps d'un épisode. Vous entendez sûrement derrière moi les cigales, les oiseaux, au loin un tracteur. Bienvenue en Luberon. À mes côtés, il y a aussi Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien. On ne peut pas dire le contraire ici. On a le temps qui est parfait et on est dans un cadre absolument somptueux.
Magnifique. Et hier, on était à Baume de Venise. Aujourd'hui, Luberon, on est juste au paradis. Patrice Defay, comment ça va?
Tout va bien. Voilà. On espère juste que ça puisse durer encore une semaine ou 15 jours, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va profiter à fond de ce moment.
Exactement ça. Je le disais, on a deux invités. Donc, Valentine Tardieu-Vitali du château La Verrerie, dont on va évidemment goûter le vin.
J'espère bien.
Dans quelques
instants.
Vous
allez l'apprécier, surtout.
On l'a déjà apprécié, figure-toi, puisqu'on l'a goûté en amont de cet épisode. Et notre autre invité, c'est Romain Dole. Bonjour, Romain.
Bonjour.
Du domaine Le Novi.
Exactement.
Et d'ailleurs, c'est avec ton vin qu'on va commencer dans quelques minutes. Au programme, on va donc présenter un peu votre terroir du Luberon, les sols, le climat, les cépages, les profils de vin. Ensuite, on dégustera évidemment vos deux vins et on parlera de vos domaines respectifs. Avant de commencer, je précise que cet épisode, comme ceux de Rasto et de Baume de Venise, est réalisé en partenariat avec l'interprofession des Côtes-du-Rhône et plus particulièrement ici l'interprofession du Luberon, bien sûr. Je précise aussi qu'on va parler uniquement des blancs du Luberon. Et ça, c'est un choix de l'appellation. Alors, vous allez nous expliquer aussi pourquoi ce choix de mettre en avant les blancs. On fait aussi, évidemment, du rouge et du rosé. Mais voilà, il y a des blancs très intéressants. C'est aussi une histoire de différenciation dans la vallée du Rhône. On va pouvoir échanger là-dessus.
Oui, on va dire que si je peux prendre un mot, c'est une des caractéristiques en fait vraiment de l'appellation du Luberon, c'est qu'on fait une production d'à peu près 20 à 25% de blanc, alors que sur la vallée du Rhône, en moyenne, on est plutôt à 10%. Donc on a quand même, de fait, le double de volume en blanc, donc c'était aussi l'idée de faire un focus sur les blancs du Luberon.
Et puis je pense que c'est aussi un cépage qui est de plus en plus consommé, on sait qu'il y a une croissance de consommation sur le blanc, donc c'est une carte à jouer aussi pour l'appellation de prendre ses parts de marché.
Absolument, on valide le fait que le blanc est en... la demande sur le blanc est en croissance constante. Patrice, Nous ferais-tu un petit tour d'horizon à ton habitude?
Alors, pour le faire rapide, parce qu'on a eu des gros débats sur le sujet, étant-nous plutôt basés à Paris, donc on dit Luberon et pas Luberon. Hein,
on évacue ça tout de suite. Voilà, Luberon.
Simplement parce qu'on dit biberon et pas biberon. Voilà.
Oui, c'est parce que ça, Luberon, en provençal, c'est Luberoun.
Luberoun, oui.
Mais le E se prononce E. C'est pour ça, en fait, que souvent les gens pensaient que c'était Luberon. Et non, il n'y a pas d'accent sur le E.
Exactement. Tout à fait. Donc, nous sommes dans le Luberon. Alors, la particularité, c'est qu'on est sur l'ensemble du domaine viticole, donc Luberon, qui est une AOC...
Tu viens de le faire.
Ouais, de Luberon. Ouais, c'est ça le risque. C'est tellement ancré dans le...
Dans l'inconscient.
Dans l'inconscient que ça passe. mais donc, le Côte du Luberon est en AOC depuis 88, en appellation sous le nom Luberon depuis 2009. Et la particularité, c'est que l'ensemble du domaine est dans le parc naturel du massif du Luberon, donc sur 36 communes, et donc avec à peu près 3400 hectares et... La caractéristique première, et là on le voit bien, on entend les oiseaux, on entend les cigales, c'est d'abord qu'il y a 65% de forêt dans ce parc, donc il y a beaucoup de verdure, de fraîcheur, mais aussi de biodiversité, puisqu'on a 2700 espèces animales et un peu plus de 2100 espèces végétales. Donc ça contribue fortement à la force de cet AOC et sa spécificité. L'autre aspect assez intéressant, c'est qu'on est... On reviendra un peu sur la géologie peut-être, mais en fait, quand on est à l'est, on descend des Alpes. Hein, quand on vient de Manosque et qu'on va vers Cavaillon, on descend des Alpes. Donc il y a un peu plus de fraîcheur vers l'est du Luberon. Et on est en fait sur un mix de climat méditerranéen, parce qu'on est à 60 mètres de la Méditerranée, et de climat, on va dire, un peu à tendance continentale, puisqu'on est dans la moyenne montagne. Hein, les vignobles sont entre 200 et 500 mètres. Et on a quand même une... C'est aussi pour ça que les bancs peuvent s'épanouir peut-être plus facilement ici. On a une certaine amplitude thermique entre le jour et la nuit qui permet de garder une certaine fraîcheur. Après, c'est un vignoble qui a aussi beaucoup d'ancienneté, puisqu'il a plus, il date d'avant. Je crois que les premières bas-reliefs qu'on trouve sur des tombes datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, où on voit des hommes charriant des tonneaux sur les barques de la Durance. L'autre caractéristique, c'est qu'on est enclos, je dirais, entre deux rivières. Au sud, on a la Durance, au nord, la vallée de Cavallon, qui apporte aussi une certaine fraîcheur. Alors, on n'en parlera peut-être pas suffisamment d'eau, mais une certaine fraîcheur liée à la présence d'eau et puis liée aussi au courant d'air que charrient les deux vallées, au nord et au sud. Donc voilà, ça, c'est les grandes caractéristiques, je pense, du Luberon. Et l'autre grande caractéristique, on l'a déjà un petit peu dit, c'est qu'on est à peu près allé à 53-54% de rosé, 24-25% de rouge, et le blanc atteint bientôt les 24-25% et se rapproche en termes de volume de la production de rouge. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on a de nombreux cépages qui permettent justement de trouver, d'aller chercher, on en parlera avec les vignerons, mais des équilibres, des assemblages qui peuvent permettre, ultime challenge, des blancs du sud et puis avec les dérèglements climatiques, d'aller chercher de l'équilibre et de la fraîcheur. Donc voilà
L'assemblage est obligatoire hein, dans l'appellation Luberon.
Dans l'AOC, il faut au moins deux cépages pour avoir cette appellation Luberon.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des remarques par rapport à cette première présentation? Vous reconnaissez votre terroir dans ce qu'il a raconté?
Oui, moi je trouve qu'on reconnaît bien, le terroir. En fait, c'est un terroir assez large, parce qu'on disait, il y a déjà la face nord et la face sud. Donc déjà, c'est deux orientations différentes. Et sur la face sud, entre l'ouest, donc nous on est le dernier domaine à l'ouest, et l'est, il y a à peu près 10-15 jours d'écart en termes de maturité. Et justement parce qu'il y a des influences au niveau climatique qui sont différentes.
Tout à fait, on était au marché de Cucuron ce matin, c'est le marché de Cucuron, et on avait une productrice d'abricots qui est un peu à l'est et qui disait non, mais moi les abricots je n'en ai pas encore parce qu'on a une maturité un petit peu plus tardive. Et l'autre point que je n'ai pas dit, c'est aussi le côté très polyculture. Le Luberon fait partie, le parc régional du Luberon fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010 en tant que, je dirais, paysage et terroir spectaculaire de Méditerranée, parce qu'on trouve effectivement des oliviers, des abricotiers, des fruits, des fromages, enfin il y a 14 AOP et AOC au sein du parc.
Oui, c'est vraiment comprendre qu'on n'est pas une appellation nord-sud, mais on est vraiment une appellation est-ouest. Et en fait, le Luberon précoce, on va le retrouver plutôt à l'ouest du massif, proche de Cavaillon, que ce soit nord ou sud, quoi qu'il en soit. Un Luberon intermédiaire qui va être un peu plus vers Lourmarin et Cucuron, et un Luberon vraiment tardif qui commence, on va dire, à partir de Cabrières d'Aigues et plus loin jusqu'à Beaumont-de-Vertuis. Et on a vraiment, oui, c'est 2 semaines d'écart entre le château La Verrerie, par exemple, et le Novi qui est à la Tour d'Aigle.
Vous êtes aux deux extrémités, plus ou moins, du terroir ? Ah, toi, tu es à l'extrémité ouest.
Je suis à l'extrémité, mais ça me permet de lui faire des premiers ressentis
Vous millésimes. Vous échangez réellement
sur les premiers grains, bien sûr.
Mais c'est ça aussi, le métier de vigneron. C'est vraiment c'est arriver à sortir la tête du sac et puis prendre le temps pour discuter avec nos amis vignerons et puis voir un peu quelle est la tendance du millésime.
Et puis l'entraide. Parce qu'on a...
L'entraide.
Le partage d'infos.
Le partage d'infos surtout, parce qu'après l'entraide, c'est vrai qu'on est quand même souvent assez débordé chacun dans nos vignobles, mais si on peut s'aider.
Au moins sur la data, quoi.
Sur du prêt de matériel et tout, on le fait.
Laurent, je me tourne vers toi, le caviste de la bande. Le regard du caviste et puis de tes clients au Wine Therapy sur ces vins blancs du Luberon qui ils occupent aujourd'hui.
Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais pas d'offre Luberon jusqu'à présent au Wine Therapy. L'occasion s'est présentée avec l'envoi d'échantillons dans le cadre de l'émission récemment. Et puis la dégustation à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister au Kinsou il y a quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est en le faisant découvrir, les blancs que j'avais reçus, c'est que les gens ont un mal fou à déterminer la provenance de ces vins qui ont une grande fraîcheur, hein, qu'on n'imagine pas provenir de la vallée du Rhône. Hein. Assez typiquement, les gens le voient sur des terroirs plus septentrionaux. Donc,
c'est un premier élément. On est loin des archétypes de blanc un peu lourd et dense. On est dans quelque chose de très léger.
Tout à fait.
Donc, très vif.
Donc, c'est un sillon qui demande à être creusé, à faire découvrir. Et je suis très heureux d'avoir pu enclencher ce mouvement. Et je compte bien le continuer.
C'est-à-dire que nous, le climat, c'est vraiment un sud, mais pas trop. Voilà. On va vraiment être sur un climat méditerranéen le jour avec des températures assez hautes. Mais par contre, la nuit, on va vraiment avoir une chute de température avec vraiment des amplitudes thermiques qui sont très marquées. Et la vigne va avoir un temps de repos. Donc quelque part, en fait, dans nos raisins, dans l'acidité, les équilibres qu'on a dans nos raisins, on va avoir un peu plus de fraîcheur, in fine, dans les vins.
Et plus d'aromatique aussi, parce que les écarts thermiques, ça permet aussi de garder de l'aromatique dans les raisins. Mais ça, c'est aussi dû au fait qu'on ait cette montagne qui soit là, et avec tous ces arbres aussi qui ramènent aussi une certaine fraîcheur. Hein. C'est nous, c'est vrai qu'à La Verrerie, on a beaucoup d'arbres autour des parcelles, et on sent bien quand même que ça contribue à faire bien baisser la température la nuit.
Alors, on a dans nos verres la cuvée Amo Blanco, du Clos Novi, donc ton vin, Romain.
Alors c'est le domaine Le Novi.
J'écris Clos. Oui, c'est l'amour. J'écris Clos, le domaine Le Novi, pardon, excuse-moi.
Ça fait un peu bourguignon, non, mais il n'y a pas de souci.
Tu prends la comparaison, ça.
Je supporte la comparaison.
Je supporte.
Mais oui.
Donc, l'inverse n'est pas vrai.
Excuse-moi, Le Novi et la cuvée, c'est bien Amo Blanco.
Voilà, oui. Le Novi, c'est les jeunes mariés, en fait, en provençal.
D'accord.
Donc voilà, parce que c'est l'union de mes deux parents qui ont fait que Le Novi a pu voir le jour. Et Amo Blanco, ça veut dire lame blanche aussi, en provençal, dans l'idée. Et c'est essayer de travailler justement sur les cépages historiques de l'appellation en blanc, avec notamment de la clairette, le grenache blanc, le vermentino, où jusqu'à présent, on est encore l'appellation la plus septentrionale à avoir le vermentino, voilà, qui est quand même le cépage méditerranéen par excellence. Et à cette époque-là, moi, j'avais pas du nid blanc. J'en ai récupéré depuis, mais il n'est jamais rentré dans l'assemblage. Donc voilà,
c'est pas grave.
On a Amo Blanco 2018.
Qu'est-ce qu'il y a autour de l'uni blanc ?
Non, mais bon, Romain, on a les caractéristiques aussi d'avoir tous les deux de la clairette, mais du bourboulinque aussi, qui est un cépage qui amène beaucoup d'équilibre aussi dans les vins. Qui est plutôt un cépage au départ provençal, même si à Châteauneuf, ils en ont aussi. Mais c'est vrai que c'est des cépages de deuxième maturité ou troisième et qui permettent de garder cet équilibre dans nos vins.
Alors après, on n'a rien contre l'uni blanc, mais l'uni blanc, c'est quand même un cépage qui est très productif. Il est beaucoup dans les cognacs, il est beaucoup aussi dans le tariquet, par exemple. Hein.
Il est peut-être moins aromatique aussi. Voilà.
Cépage de volume.
Alors oui et non, après, ça dépend
comment
c'est travaillé. Mais après, moi, j'allais dire qu'il y a beaucoup de cépages provençaux qui sont décriés, hein, le Carignan, le Cinsault, et puis de plus en plus, on commence à voir qu'il y a aussi un discours qui change par rapport à ces cépages-là. Le cinsault, de plus en plus, on entend dire que c'est le pinot noir de Provence. Mmh. Oui, donc,
on en fait des monocépages qui sont parfois superbes.
On a goûté des monocépages de Carignan blanc fantastiques du côté de Corbière.
C'est en ça où, pour moi, quelque part, il faut aussi peut-être décoller un peu des étiquettes, donc, que ce soit sur l'absence de luberon dans la cave ou sur aussi les vieux cépages. Et, voilà. Le bourboulin qui est lui aussi assez productif. Après, il est assez rustique.
Très résistant.
Il résiste très bien aux maladies et au manque d'eau. D'ailleurs, on a récupéré, nous, en Luberon et au domaine Le Novi, le conservatoire pour le Bourboulinque en collaboration avec la Vallée du Rhône. Mais ça, c'est pour nous aussi en Luberon et surtout pour Tour Méditerranéen un des meilleurs leviers pour s'adapter au changement climatique.
En fait, je pense que la clé de l'appellation, c'est justement d'avoir cette multitude de cépages qui nous permettent effectivement d'avoir des vins avec une certaine typicité, quoi. Et de jouer, de se servir d'un cépage pour la fraîcheur, un autre pour l'aromatique, et ainsi de suite.
Combien de cépages en blanc, du coup, qui peuvent rentrer dans l'appellation ?
Alors,
7.
7, ouais.
7.
7, 7, on peut les noter, les nommer. Ouais. C'est le Vermentino, le Grenache blanc, la Clairette, la Roussanne, la Marsanne, le Viognier, le Bourboulinque et l'Uniblanc. Donc il y en a 8.
Il y en a 8, c'est ça.
Il y en a 8. Voilà.
Concrètement, sur ce vin, donc le cépage le plus présent, c'est le Vermentino, 47%, c'est ce que je vois dans la fiche technique, de la Clairette et un petit peu de Grenache blanc. Comment tu opères justement cet équilibre-là ? Est-ce que c'est un équilibre qui, sur cette cuvée, reconduit chaque année ou d'un millésime sur l'autre, tu vas modifier un petit peu les curseurs ?
Non, on cherche à s'adapter quand même chaque année au millésime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de systématisation dans notre travail. Je pense qu'être vigneron, c'est être aussi équilibriste et comprendre un peu le millésime pour après essayer de garder un profil, une identité dans le vin. Donc l'assemblage bouge chaque année. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quoi qu'il en soit, assembler assez tôt une part de Vermentino avec des grenaches blancs, en se disant que peut-être les qualités d'un cépage vont venir pallier au manque d'un autre. Après, moi, j'aime beaucoup la Clairette. Et en fait, cette cuvée est née de la Clairette en 2015, qui était mon deuxième millésime. Je voyais pas où la placer, mais ça se goûtait tellement bien que j'avais pas du tout envie de la noyer et qu'elle perde toute son identité, sa texture en bouche. Donc cette cuvée est arrivée de par la Clairette. Voilà. Et après, il y a un travail de fermentation sous bois et en amphore, et d'élevage aussi. Ma conception par rapport à l'élevage, c'est toujours essayer d'être dans la mesure. Voilà.
Donc pas marquer le vin.
Rien systématiser, et puis être toujours dans une notion d'équilibre. Et c'est ça, en fait, l'assemblage pour moi. Voilà. Et l'atout et l'art de l'assemblage, c'est justement essayer de retrouver un équilibre quand on est sur des climats qui sont souvent un peu extrêmes.
Valentine, qu'est-ce que tu dirais de ce vin ?
Non, mais moi je partage l'idée de l'assemblage, en fait, où rien n'est systématique, où en fait nous on s'adapte toujours à ce que la nature nous donne, hein. On maîtrise absolument rien. Et ça, je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête, de ne pas maîtriser les choses. Et ensuite, l'assemblage, ça se fait à la dégustation. De toute façon, c'est pour ça qu'on est formé. Hein. Autrement, si c'était une recette, on n'aurait plus besoin de nous, on n'existerait plus. Les ordinateurs pourraient nous...
On va parler aussi de la conduite de la vigne.
Ah oui, en amont, c'est sûr. Mais sur l'art de l'assemblage, ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est tous les ans qui se refait. C'est une partie de carte qu'on refait tous les ans, quoi.
Ça peut vraiment varier dans les grandes dimensions. L'année prochaine, le Vermentino sera minoritaire sur cette cuvée.
De toute façon, on parlait du Bourboulinque un peu plus tôt. Faut savoir que le Bourboulinque, c'est un vrai tardif. C'est-à-dire qu'il démarre son cycle très tôt et qu'on va le ramasser très tard. Donc clairement, quand on repart un peu en 2021 et qu'on voit les gels d'avril en 21. De fait, je pense que Valentine et moi, on n'a pas eu la même quantité de bourboulinque en cave. Donc, on est obligé
par nécessité
de s'adapter. Voilà.
Ça s'impose.
Après, sur le vin, on n'a pas beaucoup parlé du vin, mais c'est vrai qu'il est. Il y a un profil sudiste par rapport à l'ampleur, à la matière, etc. On a beaucoup de légèreté au nez. C'est hyper floral. Il y a un peu d'agrumes, il y a un petit côté anisé. Au nez, c'est hyper agréable. Et puis en bouche, c'est.
C'est
assez long en bouche quand même. Hein.
Voilà. C'est un joli twist. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'il y a un twist avec de la maturité. Et on sent que c'est un climat où il y a du soleil. Ouais. Mais par contre, en bouche, on va retrouver vraiment un côté qui est un peu plus aérien, un peu plus cristallin, et qui fait que, en fait, on garde une bouche propre. Et la construction d'ailleurs, et la façon aussi de garder cette bouche assez salivante, ben c'est d'essayer d'aller chercher le grain de tanin qu'on peut avoir dans le bois au travers de la fermentation et de l'élevage. Voilà.
Mais de toute façon, je trouve que c'est une caractéristique sur les blancs du Luberon d'avoir une certaine sapidité en fin de bouche, qui ramène beaucoup de longueur et qui va étirer aussi le profil gustatif du vin.
Ce qu'on n'a pas dit, on a parlé des grandes caractéristiques un peu du blanc et des forces du blanc. On n'a pas parlé du sol, on a parlé de la géologie. Et c'est vrai quand même, il y a une dominante calcaire. On sait qu'en général, les blancs s'épanouissent bien sur les calcaires, que ça maintient un certain... Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ça garde un petit peu l'eau. Les cafés à l'argile calcaire, après vous nous direz en fonction de vos différentes expériences.
Il y a une calcaire qui retient l'eau. Quand
même. Il faut qu'il y ait de la marne dessous. Différentes choses. Mais en tout cas, c'est un terroir, au sens sol du terme, plutôt d'expression des blancs quand même, le calcaire, argilo-calcaire. Ou pas ? C'est pas un avantage ?
Moi, je suis partagée, ça dépend des cépages. Vraiment, je répondrais oui. Effectivement, sur, par exemple, sur le grenache blanc, on peut avoir des sols très calcaires, très drainants, ça va très bien marcher. Il y a d'autres cépages où ça va beaucoup plus bloquer, notamment le Viognier, puisqu'il fait partie. Donc, ça, vraiment, ça dépend du cépage.
Moi, ce qui me plaît dans ce vin, notamment, c'est la délicatesse de l'élevage. Parce qu'on perçoit effectivement un élevage avec un peu de bois, mais il est très fondu, très 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 intégré, et ça apporte beaucoup de plaisir, je trouve.
Petite note toastée, mais juste ce qu'il faut.
Oui, tout à fait. Bien, je trouve bien maîtrisé. Ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, c'est-à-dire que beaucoup de vignons pousse absolument le bois et on se retrouve avec des choses qui sont très vanillées et là on est vraiment pas sur ce registre de vin.
Oui, merci. Après moi c'est vraiment c'est essayer de faire la traduction de ce territoire et de ce climat frais. Voilà, on a parlé peut-être un peu rapidement de ce climat méditerranéen frais. Mais c'est une réalité ici, et plutôt en introduction, on avait parlé de Baume de Venise ou même de Rasto. On est sur des terroirs qui sont beaucoup plus solaires, peut-être beaucoup plus exposés aussi au Mistral, et ce qui fait que on va avoir une vigne qui, quelque part, va être un peu plus stressée, et on va perdre un peu cette légèreté dans l'aromatique et dans ses équilibres. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la singularité du Luberon dans la vallée du Rhône et dans toute la Basse-Provence.
Et bizarrement, on parlait de sapidité, mais moi j'étais un peu marqué par la salinité sur ce vin. Je ne sais pas si vous l'avez
constaté. Oui, non, mais je suis d'accord. Côté sapide, ou vous le ressentez. Salin, ouais, mais c'est vraiment une caractéristique.
Est-ce qu'on peut définir sapidité ? Parce que ce n'est pas un terme qui est forcément très, très courant et facile. Dans le vin, je sais.
C'est une unité qui est plus difficile à définir. Ouais. Sapidité, c'est que ça a beaucoup de goût, beaucoup de saveur, beaucoup de longueur. Ça vient de saveur, sapidité. Ouais.
Voilà. Après, salinité. C'est le substantif de saveur.
Comment traduit la salinité ? Oui, c'est une sensation en bouche, en traduction.
De notes salées, c'est pas très compliqué, à mon sens. Ouais,
non, mais comment le transmet, qu'est-ce qui fait que.
Après, clairement, on n'a pas de marqueur aromatique pour la salinité, pour le minéral.
C'est une sensation.
Après, c'est des impressions. Je ne sais pas. Comment on pourrait définir le umami ?
C'est une saveur, le salé.
Au Japon, quoi.
Ouais.
Mmh. C'est ça. Oui, c'est du sel.
Bah oui, non, mais on le sent sur la langue, en fait. On sent bien qu'il y a une certaine salinité dans ton vin, quoi.
Ouais, moi, je trouve, en tout cas. Hein. C'est un vin superbe.
Le domaine fait 15 hectares, c'est ça. Puis avec une envie d'aller, on parle bien des grands thèmes, agriculture biologique, biodynamique, etc., etc. Mais avec une volonté de travailler la vigne en. En bon sens, quoi.
Oui, oui. Le domaine fait maintenant un poil plus que 15 hectares. D'accord. Après, avec beaucoup de cépages. Et ça, voilà, c'est aussi la force de ce territoire. Moi, pour ma part, j'en ai 12. Et puis, on continue la réflexion sur, justement, des cépages anciens pour s'adapter au changement climatique. Et puis après, c'est essayer d'avoir beaucoup de bon sens au vignoble. Voilà. Alors après... oui, on est en bio, mais qu'on soit en bio ou en conventionnel, dans l'absolu, c'est avoir du bon sens paysan. Donc, c'est essayer de travailler sans trop contraindre le vivant et en essayant de l'accompagner.
Oui, mais avec une sensibilité au vivant. J'ai vu, c'est écrit sur le site. Hein, donc, oui. je relais le site Le Novi, on parle de tressage, par exemple, plutôt que c'est de. Vrai. plutôt que de rognage. Donc il y a quand même une sensibilité qui fait que...
Explication.
Alors on va dire des gros mots et puis après Romain va nous expliquer ça. Mais
info,
pour favoriser l'apex. Hein,
c'est ça.
Et pour que la vigne soit sensible aussi dans ses extrémités. C'est un peu ça la
traduction.
Dans l'absolu, si on imagine une vigne avec une tête et quand on lui coupe une tête, ça devient une hydre.
Rognage étant de couper les
pointes.
La liane,
ses extrémités.
On va étêter ou estimer. Et en fait, quand on réalise cette pratique, ben on va induire le développement des gourmands. Donc du coup, on s'adresse plus tout à fait à un individu avec unicéphale, mais plutôt une hydre avec plusieurs têtes, du fait de ce développement de gourmands.
Et puis on ouvre la porte aussi à des pathogènes, parfois.
Ouais, oui et non, on va dire qu'à ce moment-là, la vigne, elle est quand même plutôt en bonne santé, costaud. En pleine sève, donc c'est pas un essimage qui va...
Toi, tu n'essimes pas.
Alors non. On va apporter de la nuance. Je n'essaie pas certains cépages.
Ah, oui. Voilà. Pourquoi cela et pas d'autres?
Ben parce que quelque part, en étant un vignoble aussi tardif sur le pourtour méditerranéen, ben, moi, mes vendanges, je les termine entre le 10 et le 15 octobre. Et c'est aussi une réalité pour beaucoup de vignerons en Luberon, c'est que ben, sur le Nord Vaucluse, ils terminent bien 15 jours avant nous. Donc, ben, de fait, le climat est parfois un peu plus humide, voilà, la brume tombe, et donc c'est aussi une réflexion pour garder une zone de grappe assez traversante, assez aérée, et pour éviter que toutes les maladies se développent éventuellement sur le raisin. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail en amont, en fait, faire du vin. Après, en cave, c'est
juste facile.
D'accompagner le travail de l'année. Quoi.
Voilà. Donc le tressage, c'est de prendre 4-5 brins du haut de la vigne, des cimes de la vigne, pour en faire des dreads, en fait. Hein,
c'est ça,
quelque
on fait
part.
Des dreads. Voilà. On fait des dreads et c'est voilà. Et puis c'est après aussi une façon d'essayer à ce que la plante, en fait, garde un maximum de carbone et de sucre pour, en fait, faciliter le redémarrage l'année suivante. Voilà. Parce que avec le climat, le manque d'eau et puis des températures de plus en plus extrêmes, que ce soit dans le plus ou dans le moins, c'est important de soigner le végétal pour qu'il puisse redémarrer de la meilleure des façons l'année suivante.
Alors moi, je fais du tressage aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, ça serait plus pour essayer de garder de l'acidité, comme si je suis sur un terroir un peu plus précoce. Du coup,
chaud,
c'est plus pour essayer de garder de l'acidité naturelle dans les raisins. Voilà. Donc, effectivement,
parce que l'essimage...
En fait, l'essimage, c'est le siège des hormones. Hein. Donc c'est pour ça que derrière, il va y avoir des entrecœurs qui vont se créer. Et du coup, il va y avoir beaucoup plus de végétation. Et dès qu'il va y avoir de la chaleur, ça va plus souffrir. Et quand la vigne, elle souffre, elle dégrade l'acidité qu'elle a dans ses raisins.
Donc ne pas les téter, ça lui permet de se concentrer sur...
Voilà. Et donc ça permet aussi de garder des profils beaucoup plus équilibrés.
Tu fais ça sur tous les cépages ?
Non, pareil que Romain, déjà parce que ça prend beaucoup de temps, hein, on ne va pas se cacher.
C'est plus rapide de couper que de faire une tresse.
Ah bien sûr, tresser c'est à la main, couper c'est mécanisable, donc c'est pas du tout la même chose. Et après, il y a des cépages aussi qui sont plus faciles à tresser, hein, qui sont moins poussants. Le grenache par exemple, c'est beaucoup plus facile. La syrah, ça reste plus compliqué, quoi.
Oui, parce que vous faites également des rouges. On fait aujourd'hui un grand focus sur le blanc, mais évidemment, c'est une terre de rouge aussi.
Non, mais bon, on peut parler du Viognier, par exemple. C'est plus difficile à tresser que le grenache blanc.
Je tresse les Vermentinos et les Viogniers, dans l'absolu. C'est tous les porcs qui sont semi-retombants ou retombants. Voilà, c'est aussi la réflexion et comment on arrive à hiérarchiser et faire des choix par rapport à cette pratique.
Et en conduite, globalement, dans le coin, vous êtes plutôt quoi? Cordon de Roya, il y a du gobelet, il y a un peu de tout, il n'y a pas de choix, c'est pas lissé. Il n'y a pas d'absolu.
Ça dépend du cépage.
Il y a beaucoup de tout. Hein. Il y a de tout, il n'y a pas d'absolu. Et on va dire que le cahier des charges de l'appellation n'est pas très restrictif à ce niveau-là. Donc voilà, nous, on a une densité de plantation qui est minimum. On peut aller au-delà si on le souhaite. Et puis après, sur l'architecture, libre à chacun.
Très clair. On a quelques petits trucs à grignoter, juste pour mentionner, dans les autres AOP, il y a un peu de Bannon, donc il y a aussi une AOP du Luberon en chèvre, en fromage de chèvre. Bien sûr.
Beaucoup de fromage. On va passer au deuxième vin aussi, j'imagine, parler de ton vin, Valentine. il y a un thème qui est central, et je pense que même dans des choses que vous avez déjà dites et qu'on entend, c'est l'eau et l'hydratation. On est dans une région qui peut être assez sèche, même s'il y a la fraîcheur apportée à la fois par l'altitude et par ces deux courants, ces deux rivières. Il y a une vraie problématique d'eau, avec des inégalités entre les endroits, les lieux où on se trouve, sur l'accès à l'eau. Si j'ai bien compris, alors on peut dire tout de suite que l'irrigation des vignes est autorisée sur dérogation. Ça, c'est chaque année l'appellation qui doit faire une demande à l'INAO pour avoir le droit d'irriguer.
En fonction du millésime et du climat.
Voilà. S'il a beaucoup plu, peut-être qu'ils diront non.
Cette année, par exemple, on est déjà en déficit au niveau de la pluie. Je crois que c'est un mois à l'avance, hein, ça a été autorisé cette année. Ouais,
c'est ça. Par rapport aux années précédentes.
C'est ce que Nathalie disait hier soir, effectivement, ouais.
Et ensuite, il y a géographiquement des zones qui ont accès plus facilement à l'eau. C'est le cas du Novi, je crois, Romain. Vous êtes plus près parce que l'accès à l'eau ici, c'est pas
le canal de Provence.
Il est trop loin, c'est le canal de Provence.
En fait, qui descend faut comprendre du barrage Serponçon.
C'est ça. En fait, il faut comprendre que à l'après-guerre, on a cherché à canaliser la Durance, qui était plutôt une rivière assez. Assez fougueuse, oui, qui avait tendance à beaucoup sortir de son lit. Et donc, du coup, il y a une somme de barrages tout au long de l'île de la Durance. Et donc, du coup, ben, on a quelques points d'eau sur la basse Provence, que ce soit sur Serponçon, mais aussi sur le lac de Sainte-Croix, par exemple, qui fait que, ben, éventuellement, en agriculture, ici, on peut avoir recours à de l'irrigation.
Mais au départ, c'était plutôt pour la culture maraîchère, oui. Ouais. Au départ,
mais aujourd'hui, c'est la vigne qui est concernée.
Voilà.
On sait que la vigne est une plantation qui, a priori, a moins besoin d'eau, justement, que les maraîchages.
C'est une liane, donc effectivement, elle a moins besoin d'eau, mais elle a quand même un minimum d'eau à avoir.
On arrive à un stade où on commence à... Même la vigne est stressée en termes d'eau.
C'est ça.
Et de plus en plus tôt.
Et de plus en plus tôt, oui. Bah, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'hivers, et que les hivers sont aussi de plus en plus secs. Donc, en fait, on a plutôt des épisodes orageux très violents, et en fait, de moins en moins de pluie éparse pendant l'automne. Quoi.
Comment vous faites face à ça, alors ?
Nous, c'est vrai que comme on n'a pas accès à l'eau...
Donc toi, tu n'irrigues pas parce que tu n'as pas encore accès à l'eau.
Donc je suis bien obligée de trouver des solutions. Hein. Déjà, du coup, moi, sur le domaine, c'était de se dire, si on n'a pas d'eau et que ça commence à souffrir, on va faire de moins en moins de rosée. Ça a été le premier.
Parce qu'il a plus besoin de...
Parce que c'est une vigne qui doit être plus poussante, qui doit être plus verte. Il y a des caractéristiques pour faire du rosé. Si on veut faire un rosé clair, on est obligé d'avoir un rendement à l'hectare qui est un peu plus important que pour un rouge. Et du coup, c'était de réorienter toutes ces vignes plutôt, de retransformer le domaine et de reproduire du blanc. Voilà. Parce que je trouve que les cépages en blanc, finalement, résistent mieux au sec que beaucoup de cépages en rouge.
D'accord.
Donc c'était ça l'idée.
Oui, donc la verrie, c'est un grand domaine, c'est 56 hectares, je crois, de vignes.
Alors,
à peu près.
Le domaine fait 150 hectares,
ouais.
Sur lequel on cultive 56 hectares de vignes, et on a de l'olivier aussi. Voilà.
Exactement.
Toi, tu t'occupes que de la vigne ou tu t'occupes de tout le domaine ?
Tout le domaine.
D'accord. Juste pour continuer sur cette histoire d'eau, on va parler du domaine peut-être après. Le couvert végétal, le fait de travailler en bio, le fait de ça joue aussi sur le maintien des températures.
Oui, il y a beaucoup de choses qui jouent. Déjà, c'est le choix du cépage en premier. Il y a des cépages qui résistent beaucoup mieux. On parlait du Carignan, qui est un super cépage. Pour moi, j'ai toujours vu que c'est un cépage assez masochiste, parce que c'est quand il souffre qu'il se révèle être le meilleur. Le grenache aussi, le cinceau en blanc, il va y avoir le bourboulinque par exemple, la clairette qui va avoir une bonne résistance aussi, la roussanne ça va être beaucoup plus compliqué par exemple pour nous, on en a mais on sait qu'on va être sur des rendements très très faibles, on pourra pas voilà. Et c'est tout ça, c'est s'adapter aussi avec son terroir, de pas avoir trop de feuillage aussi, parce que nous si on monte trop en feuillage ça, la vigne va souffrir. Donc toutes ces... Après, on fait aussi des pulvérisations d'aquilée quand il fait vraiment très chaud. Ça permet à la vigne de récupérer.
Une tisane
Ouais, de tisane qu'on dynamise. Et donc ça marche très très bien. On a vu beaucoup d'effets. On avait aussi commencé des poudrages et on continue à en faire, des poudrages d'aspirine végétale. Donc ça fluidifie la sève, un peu comme pour nous quand on a les artères qui se bouchent.
Qu'est-ce que tu appelles l'aspirine végétale alors ?
C'est quoi là ?
l'acide salicylique, hein, du coup.
Mais ah, c'est oui, comme trop, les inconnus, voilà. Acide, acétyl, ouais. Salicylique, ouais, c'est ça.
Ouais, acide salicylique. Et du coup, ça va perdre. Nous, au départ, on l'avait mis parce qu'on avait des défoliations assez importantes à partir de mi-août. Et on sait très bien que quand la vigne commence à faire de la défoliation, ben, la maturité, elle se fait plus par maturité phénolique, mais par concentration. Donc, il y a on commence à avoir du mal à faire mûrir les peaux. Et quand on fait du rouge, c'est un problème. Donc, du coup, pour éviter cette chute de feuilles, on a commencé par du poudrage. Je crois que c'était en 2018, on a commencé par ça. Et on a vu vraiment un effet assez visible.
Est-ce que ça veut dire que c'est les tanins qui sont consommateurs d'énergie et d'eau?
Non, pas du tout. C'est qu'en fait, les feuilles qui vont défolier sont les feuilles qui amènent à maturité. Hein, parce que les feuilles qui amènent à maturité ne sont pas les feuilles d'en haut, sont juste les feuilles qui sont autour du raisin. Voilà.
D'accord.
On prend toujours des choses.
Mais toujours, c'est pour ça qu'on fait cette émission et qu'on va continuer.
Le vin qu'on a servi du domaine de la verrerie, donc là on est passé chez toi, Valentine, c'est la cuvée Grand Defend.
Grand Defend, ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce vin?
Alors, bah, du
c'était
coup,
un millésime 2020, tout à l'heure c'était 2018.
Voilà, du coup la caractéristique, bon déjà Grand Defend, c'est la cuvée haut de gamme du domaine. Elle a commencé on a commencé avec un rouge au départ. En 2017, on y a rajouté en 2015, on a rajouté un rosé de saignée. Et en 2020, année Covid, j'avais envie un peu de fun. Je me suis dit, et si on faisait un blanc, mais de gastronomie. Donc, on a commencé avec avec 1200 bouteilles, hein, ce qui est quand même assez peu. Et j'ai travaillé surtout le grenache blanc, parce que c'est quand même le cépage méridional. Là, c'est grenache blanc et roussane. Voilà.
Deux tiers, un tiers à peu près, c'est ça?
Pardon?
Deux tiers,
oui, voilà,
tiers,
c'est ça. Deux tiers
grenache.
Et c'était un peu pour prouver que dans le Luberon, on peut aussi faire de très grands blancs. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce vin-là.
Superbe vin. On est dans un profil très différent du premier vin de Romain, qui était aussi merveilleux. Mais on a moins le côté salin pour moi ici, peut-être plus d'amplitude, mais tout en restant hyper vif et
ben voilà, le point commun tendu, des quoi. Deux vins, c'est qu'on en garde beaucoup d'équilibre en milieu de bouche. Ça fatigue pas le palais. Enfin, c'est pas des vins qui fatiguent. Important et on voit aussi qu'il y a une fraîcheur aromatique. Bon, alors après 2020, c'était aussi un millésime où il y avait de très très beaux équilibres dans les blancs notamment, et c'est pour ça que ça donne aussi ce
joli
vin.
Celui-là, quand même, amène, enfin, c'est encore une fois, c'est sans faire la dichotomie exagérée entre les vins d'apéro et les vins de gastronomie, mais le premier, je peux facilement avoir l'apéro. Seul, hein. Le deuxième appelle quand même à manger des choses par son côté un peu plus riche, plus boisé. Et là, je l'ai goûté avec une tielle de sète, là, à base de poulpe, et la Corse est plutôt très bien, un peu tomatée, qui apporte l'acidité. Et la Corse, enfin, moi, je trouve, c'est parfait.
Acheté au marché de Cucuron. Marché magnifique.
Le premier, on avait une sensation de ligne droite. Là, on a l'impression vraiment d'une largeur beaucoup plus importante. Quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes sensations en bouche. Et effectivement, c'est...
Le point commun, c'est la tension. Hein.
La tension reste là, ouais, y a pas de sujet là-dessus. Mais l'accompagnement d'un plat est...
Ah oui, du coup, ça appelle.
C'est plus sûr nécessaire.
Que ça, quand je dis que c'est un vin de gastronomie, c'est-à-dire que ça donne envie de manger.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on mange avec ça, d'ailleurs?
Bah, moi, je pense que tout ce qui est poularde, ça peut très bien fonctionner.
Oui, c'est vrai.
Bah, d'alote, certains fromages aussi, comme le Bria Savarin, des chèvres.
Le Bria Savarin ou
le Grand Provençal.
Ou le Grand Provençal.
Oui,
qui est
le Géant de Provence.
Le Géant de Provence, pardon.
Tout dépend à quelle période on veut le manger.
Oui.
C'est-à-dire
le Bria Savarin, c'est plus un fromage d'hiver.
Ah oui.
Ah.
Ouais.
Moi, j'allais dire, c'est intéressant, c'est que vraiment, on sent aussi ce côté est et ouest aussi dans le vin.
Ah
et
oui.
Quelque part, voilà, c'est on a un côté qui est plus solaire et aussi plus riche, tout en gardant cet équilibre-là. Et pour moi, voilà, l'identité du Luberon, c'est être dans l'équilibre, mais c'est comprendre que clairement, on a aussi, ben voilà, des sols qui vont être quelque part différents et qui vont avoir aussi une expression complètement différente. Et en fait, le seul point commun qui nous rassemble là, c'est le grenache blanc.
Il en faut un, au moins.
Moi, je suis bluffé sur l'intégration de la roussane dans vos climats, parce que j'ai souvent pas mal de mal avec la roussane, notamment en Savoie, que je trouve beaucoup trop généreuse, beaucoup trop, trop ample. Et là, on n'est
pas forcément d'accord sur le sujet. Mais...
Oui, je sais. Moi, je suis un fan de Jacquère, excuse-moi.
J'allais dire, si demain on était amené à réfléchir à une graduation et à monter en gamme sur les blancs, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faudrait garder la Roussanne en Luberon.
Ni la Marsanne, d'ailleurs.
La Marsanne encore plus. Elle crée encore plus le sec que la Roussanne.
Mais j'ai jamais trop apprécié la Marsanne, quoi qu'il en
oui,
soit.
Oui, oui, non, mais c'est
personne n'aime la Marsanne, c'est la mal aimée.
La Marsanne unie un peu le même combat, non, c'est ça
Non, moi personnellement,
je sauverais l'uni, Romain.
Moi, je sauverais l'uni parce que l'uni blanc, c'est un cépage tardif. Ouais, mais c'est un cépage tardif et quelque part, sur les équilibres, si c'est bien travaillé au vignoble et que les rendements sont mesurés, ouais. Clairement, ça va apporter suffisamment un brin de salinité, d'acidité qui fait
donc,
que
la canne de l'acidité,
on va retendre le vin. Donc moi, je suis pas caricatural par rapport à l'uni.
Pas de cépage bashing dans cette émission.
Non, mais après, la Roussanne, c'est un cépage qui me donne du fil à retordre tous les ans.
Oui, c'est difficile.
C'est très, très compliqué. Ouais. Je suis obligée sur des rendements très faibles pour pouvoir avoir un équilibre. Parce qu'autrement, après, elle commence à devenir un peu violette. Et on commence à être sur le confit que
ça ne m'étonne pas. Parce que c'est vraiment.
C'est un peu comme le Viognier, en fait.
La Roussanne et le Viognier mûrissent trop vite ici.
Oui,
voilà. C'est-à-dire qu'on est sur l'équilibre. Et puis d'un coup, tac,
ça bascule
et on va être sur de la surmaturité, sur du confit, et où justement on perd ce côté vibrant et où on a plaisir à revenir sur le verre, que ce soit sur le Grand Défunt ou que ce soit sur l'Amo Blanco. Mmh.
Ah, c'est pas des vins qui escagassent.
Pour parler un peu le langage local.
Provençal, oui. Nommons-le.
Valentine, on a compris, vous êtes à deux endroits différents de l'appellation. On a deux vins qui, c'est formidable, parce qu'ils nous proposent deux profils différents. Il y a aussi un profil différent.
Qu'on a choisi à l'aveugle parmi 18 vins.
Oui, j'ai oublié de le préciser au début. Effectivement, on a sélectionné vos vins parmi 18 vins que nous avait envoyé l'appellation, qu'on a dégusté à l'aveugle, de manière stricte. Et donc on a fait plusieurs passages même, et vos vins sont on cherchait effectivement des choses qui soient pas identiques et qui expriment des choses différentes en Luberon et des choses qu'on apprécie évidemment à la dégustation. Donc on a fait ça il y a déjà quelques semaines, et ensuite on a organisé le rendez-vous d'aujourd'hui avec les gens de l'appellation. Il y a autre chose qui vous différencie, c'est la structure des exploitations dans lesquelles vous travaillez, toi Romain dans une structure de vignerons indépendants. Toi, Valentine, tu travailles pour ce qu'on appelle ici un investisseur. Ce n'est pas forcément un profil qu'on retrouve dans tous les domaines. On trouve ça peut-être en Champagne, à Bordeaux. Ici, il y a la particularité qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont détenus par des fortunes, souvent par le côté tourisme, d'ailleurs, plus que par le côté investissement, si on en comprend, des gens qui sont venus et qui aiment la région et qui, du coup, des milliardaires ou des vedettes de cinéma qui s'achètent un domaine. Toi, en l'occurrence, c'est la famille Descours qui détient le château de la Verrie depuis déjà très longtemps.
Du coup, oui, c'est ça qu'il faut nuancer. C'est que lorsqu'ils ont acheté le domaine, on était en 81, la liaison TGV ex-Avignon n'existait pas, donc il y avait quand même déjà beaucoup moins d'intérêt pour la région. Et l'appellation n'existait pas non plus. Donc c'est vraiment...
C'est
pas un investissement, c'est un coup de cœur. Et ça a été le dernier projet du grand-père de M. Descours. Et c'était vraiment... Il s'est imprégné de ce domaine-là. Et d'ailleurs, il résidait presque 6 mois dans l'année. Donc c'est vraiment ça. Et on sent dans ce domaine vraiment l'amour qu'il a mis à construire Château La Verrie.
Et concrètement, quand on vous entend parler tous les deux, la réalité que vous vivez dans la vigne, elle est strictement identique.
Transpire pareil, je pense.
Voilà, c'est ça. Il y a des tailles d'exploitation, t'as dit.
Peut-être un peu plus pour ma part.
T'es plutôt...
Ouais, parce que t'es plus poilu.
C'est lié à la pilosité, c'est pas lié à
20 hectares d'un côté, toi, tu pilotes une exploitation qui est beaucoup plus grande en termes de taille, donc ça impose d'autres moyens, j'imagine.
Déjà la gestion du personnel qui n'est pas la même, certainement. Le reporting que je dois faire aussi, quotidiennement, mais mensuellement à M. Descours. Et puis, mais après, c'est l'investissement, il est le même en fait. Moi, je m'occupe de ce domaine vraiment comme si c'était le mien.
Et tu as la liberté d'action et des choix. Tu reportes.
Je reporte, on décide ensemble, mandat, et après c'est moi qui exécute. Quoi. Mmh. Ouais. Je suis chef d'orchestre. Quoi.
Bravo.
Merci.
Bravo pour ce vin également qui effectivement fonctionne tellement bien avec toutes les petites choses qu'on a autour de la table. C'est, euh,
c'est une merveille. Comment vous voyez évoluer, du coup, les Blancs en Luberon? Est-ce que pour vous, c'est le début d'une grande aventure? Enfin, c'est déjà bien installé, hein, mais je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, on choisit de mettre l'accent en termes de communication sur le Blanc. Vous pensez qu'à terme, voilà, ça va remplacer le rosé, comme tu disais, que le rosé, avec cette montée de du climat.
Ah non, moi je m'exprimais pour mon terroir.
Oui, oui, enfin, mais en fait, y a, derrière ma question, il y a aussi la projection sur l'avenir qui est quand même difficile avec les conditions climatiques qui évoluent, l'accès à l'eau, on en a parlé. On sait très bien, même si on espère que des choses vont être faites, on sait très bien que ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines années. Comment un terroir comme le vôtre, sudiste, va réussir à s'adapter?
Ah ben, pour moi, c'est clairement la réponse, elle est au niveau des cépages. Voilà. Moi, c'est aller piocher dans les vieux cépages que on a un peu bâché parce que trop petit degré, parce que ils avaient tendance à jamais être mûrs.
Puis trop productif.
Industrie de la sélection clonale aussi, il y a toute une mécanique
donc,
derrière.
Donc voilà, ouais, c'est ramener de la diversité, encore un peu plus dans notre ancien.
Au-delà des 8 qu'on a cités, ou juste faire varier au sein de ces 8?
On gardait 8, on enlevait 2 et on rajoutait 2.
Voilà, oui, c'est un peu ça. Ouais.
C'est tout ce que j'ai compris. Hein.
Tu rajouterais quoi?
Carignan blanc, moi.
Moi, carignan blanc, mais l'année prochaine, je plante des grenaches gris, par exemple. Et puis après, moi, j'ai tendance à regarder un peu plus sur le pourtour méditerranéen et pas forcément aller trop loin. Mais voilà.
Une graisse.
Pourquoi pas un macabeu?
Un acertico.
Je regarde plutôt vers l'ouest. Mmh. Voilà, ou de la parellada, ou du charello, ou du tourbat, voilà, qui sont des cépages qui sont pas très très loin de chez nous.
Espagne et Portugal.
Voilà, Espagne,
Portugal, Italie, un peu aussi.
Et Catalogne du Nord. Mais après, il y a bien sûr en Italie aussi d'autres choses à aller trouver et piocher. Donc voilà, et pour moi, c'est le plus gros enjeu, il est là. Et de fait, vu qu'on travaille des mains d'assemblage, pour le consommateur, ça restera assez transparent. Voilà, je pense que se réinventer sur des appellations où on a construit son identité sur des monocépages, ça va être plus compliqué pour eux. Parce que le consommateur est très, très enclin à voir ce cépage-là sous cette appellation-là. On n'a pas ce problème-là. Donc à nous d'anticiper suffisamment en amont pour s'adapter au mieux.
Travailler avec l'AOC, l'INAO, etc. Pour les faire rentrer dans l'appellation.
D'ailleurs, on peut envoyer un petit message à l'INAO en leur disant que le pas de temps de 10 ans est parfois un peu compliqué quand on voit que le dérèglement climatique est très, très, très...
C'est quoi ce que tu appelles le pas de temps?
C'est 10 ans pour
entrer un nouveau cépage. Ouais.
Et ça, c'est lié à un souhait, c'est d'expérimenter. C'est ça la logique derrière. On va bientôt recevoir quelqu'un de l'INAO, donc on prépare un peu nos questions.
Oui,
passez-nous vos messages.
En fait, c'est-à-dire que ils ont créé l'appellation, il y a des cépages qui ont été déterminés.
Ancrés un peu dans le marbre.
Voilà, ancrés dans le marbre. Et le problème, c'est que dès qu'il faut bouger une virgule, c'est très compliqué, très lourd. Et nous, on est face à vraiment des décisions. Quand on plante une vigne, on ne la plante pas pour 10 ans, quoi. On la plante pour 5 ans, 70 ans. Ouais. Et si on ne nous donne pas des solutions de faire perdurer nos exploitations économiquement parce qu'on aura plus de liberté, et à un moment donné, ça va se retourner contre nous, cette lourdeur administrative.
Et le climat est un peu impertinent, mais finalement, est-ce que vous avez besoin de l'appellation
On est là pour défendre l'appellation, donc on ne va pas dire qu'on n'en a pas besoin.
Moi, j'ai souhaité inscrire mon projet uniquement dans le Luberon. Moi, j'ai construit la cave en 2014. Jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, je faisais que du Luberon. Voilà. Parce que je crois en ce territoire et je crois...
En la force de l'appellation.
Mais effectivement,
et puis en cette singularité, dans les équilibres, dans les expressions. Et donc, du coup, quelque part, faire fi de l'appellation, ça serait aussi renoncer.
Mais effectivement, c'est quand même une question qui se pose parce que on le voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui abandonnent l'appellation au profit des vins de pays. Parce que
je pense que la sincérité de votre démarche dépasse le cadre d'avoir une étiquette Luberon quand même. Non.
Non, donc, mais enfin, ce que veut dire Laurent, peut-être, c'est qu'on pourrait avoir un poisson pilote en vin de France, etc., pour tenter peut-être de nouveaux
cépages. Il y en a plein déjà.
Oui, ouais. Non, il y en a plein.
Non, mais au sein de vos gammes, j'entends. Je ne sais pas si c'est le cas.
Mais, oui, mais ça existe déjà. Mais... Ouais. C'est pas le sujet aujourd'hui.
C'est pas votre envie.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est
mais
plus...
Bon, en tout cas, pour faire face à ça, c'est vraiment les nouveaux cépages qui sont le levier majeur de l'adaptation climatique. Moi,
les pratiques culturelles aussi, je pense. Il y a beaucoup... je pense que, par exemple, le grenache, on va parler du grenache, mais le grenache a été palissé dans les années 2000 parce que c'était beaucoup plus facile.
C'était mécanisable.
C'était mécanisable et que du coup, ça faisait baisser les coûts à l'hectare. Mais en fait, on se rend compte que quand on le remet en gobelet, le fait d'avoir un port un peu plus retombant, ça crée un microclimat dans la plante.
Oui, enfin, les raisins sont à l'ombre des feuilles.
Oui, voilà. Mais il y a vraiment une différence de température aussi, de parce qu'il y a eu des études de fait avec
oui,
des sondes.
Il y a moins de s'expression
voilà.
solaire.
Donc voilà, il y a aussi ça, c'est se reposer les bonnes questions. Et puis il y a aussi les couverts végétales qui peuvent aussi bien marcher. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut on peut aussi expérimenter d'un point de vue culturel aussi.
Merci beaucoup, Romain Doll. Merci, Valentine Tardio-Vitali.
C'est ça.
Pardon, j'ai failli me tromper sur le nom. Du Château La Verrerie et Romain Doll du Novi, du domaine.
Du Clos Le Novi, du
coup. Non, arrête.
Arrête. Domaine Le Novi, pardon.
Ça y est, ouais. je vais répéter
ça. C'est écrit en Bourgogne.
Je suis confus. De fois.
Arrêtez ou je dis Luberon. Hein. Franchement.
Je vais remercier aussi du coup l'interprofession, Marjorie et Nathalie de l'interprofession Luberon qui nous ont accueillis ici, le Château La Sable, pour nous avoir logés et chez qui nous réalisons donc cet enregistrement. J'ai parlé des dégustations à l'aveugle. Elle n'est pas là, mais elle était avec nous pour sélectionner les vins. C'est Valérie Ouvertus de nos testing. Merci évidemment à tous les domaines qui ont envoyé des échantillons. Patrice le disait, une vingtaine. D'échantillons, on mettra tous les noms dans la description de l'épisode. On vous laisse retourner dans vos vignes. Vous avez une actualité toujours assez dense. En ce moment, c'est quoi ?
Ah ben, en ce moment, c'est entre nœuds, très sage. Et puis, on a surgreffé en fait un hectare et demi cette année avec des vieux cépages. Donc, on a parlé de blanc, mais bon, moi, j'ai surgreffé beaucoup de counoises cette année. Qui est aussi un vieux cépage provençal, donc c'est c'est s'assurer que tout se passera bien et qu'on arrivera éventuellement à récolter des fruits l'année prochaine.
Bah, c'est le même combat, moi j'ai pas le surgreffage, mais moi c'est pareil, c'est tressage, ébourgeonnage, relevage, travail des sols aussi. Donc on est bien occupé, ouais. Puis en plus on s'adapte à cette forte chaleur, donc on est obligé de commencer très tôt le matin. On va pas mettre les gens à travailler en pleine chaleur, donc voilà. On vit avec.
J'en ai segmenté entre le matin et on reprend.
C'est continu, mais pour d'autres ça s'arrête plus tôt. Mais on essaye aussi de s'adapter aussi à notre climat, hein, parce que la vigne, on la travaille toujours mieux quand il fait frais que quand il fait chaud. Voilà, elle est plus turgescente le matin que l'après-midi. Et on le fait plus de mal l'après-midi.
Et puis il faut comprendre que notre métier, c'est vraiment un couteau suisse. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a la vigne, mais après, il y a aussi la vie en cave. Et puis, il y a
éventuellement
l'administratif, la clientèle. Et voilà, et c'est ça aussi la réalité d'un vigneron 2.0, on va dire. Voilà.
Ici comme ailleurs, pour le coup.
Mais vous ne feriez pas autre chose ?
Ah non, loin. Loin de moi.
Rassurez-moi.
Ah non.
Ainsi s'achève cet épisode 94 consacré au vin blanc du Luberon. Si vous êtes dans le coin, allez visiter les domaines. Et bien sûr, vous ne limitez pas qu'au blanc, puisqu'on a parlé que de blanc aujourd'hui. Mais il y a aussi des rosés qui sont très sympathiques. Il y a aussi de grands rouges.
Des très grands rouges.
Je pense à
Guillaume Gros.
Guillaume Gros, par exemple. Vous avez d'autres le Château La Verrerie, le domaine Le Novi, vous faites aussi des rouges. D'autres domaines que vous avez envie de citer
La Canorgue, par exemple.
La Canorgue,
le domaine Ruffinato, la Bastide du Clos.
La Citadelle.
La Citadelle, oui, non, on est
Château de Fontvert.
Voilà, Château de Fontvert, bien sûr.
D'Autriche.
Venez faire un tour en Luberon. On n'a pas parlé de nos tourismes aujourd'hui, mais c'est tellement une évidence ici que ça s'impose.
C'est un peu cliché, en plus.
De nos tourismes, voilà.
C'est-à-dire que, oui, voilà, on n'est pas que de nos tourismes. Il y a des gens derrière tout ça, quoi.
Bien sûr qu'il y a des gens. Et il y a une région magnifique. Merci Patrice, merci Laurent.
Merci pour ce petit tour dans le sud.
Ah, c'est bien chouette. Merci Morgane qui nous a fait le son pour ces deux épisodes un peu exceptionnels à Baume de Venise et en Luberon. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Terre à Boire dans une paire de semaines. À bientôt, portez-vous bien. Ciao.